rester en forme, écoutez Aligre FM.
De Radio Aligre, voilà, c'est Nathalie Perrin, moi-même et Isabelle Raviolo qui est à côté de moi pour l'émission Philosophie au présent, voix du Collège international de philosophie. Alors nous sommes depuis quelques semaines déjà dans un peu, on pourrait dire, une mouvance esthétique des rapports entre la philosophie et l'art et comment nous, à partir de notre champ de la philosophie, un champ cela dit éclaté depuis un certain nombre d'années, comment on peut se saisir de ce qui nous plaît de l'art en général, que ce soit de la peinture, de l'écriture romanesque, comme nous l'avions fait la semaine dernière, ou plutôt il y a 15 jours. Alors nous poursuivons un petit peu cette idée de carte blanche à des artistes, et aujourd'hui ce sera à partir d'un ouvrage de Pascal Quignard qui s'appelle « Mourir de pensée ». Et pour vraiment être très clair sur le pourquoi de Quignard, et bon, les auditeurs, vous le savez, Isabelle Raviolo et moi-même sommes directrices de programme au Collège international de philosophie, et il y a un an, Franck Jędrzejewski et Florent Martinez, respectivement donc le Collège international de philosophie et le HESS, ont organisé un colloque autour de Pascal Quignard. Voilà, à cette occasion, nous avons eu la possibilité non seulement de rencontrer l'auteur, puisque Quignard nous a suivis pendant 3 jours, et moi, personnellement, de faire une rencontre, je crois, avec une véritable œuvre littéraire que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, pour moi et pour Isabelle, c'est un petit peu... notre but est aussi un petit peu de partager nos lectures et ce que nous ressentons de cet auteur, comment il nous fait penser, comment surtout il nous touche, puisqu'on va voir que ce mourir de pensée, c'est un travail de ce que penser veut dire, hein, j'aurai l'occasion de le dire, et ce que penser veut dire, c'est aussi une mise en question d'une certaine philosophie. Alors, mourir de pensée est paru, et là j'ouvre les pages de cet ouvrage que j'ai devant moi. Il a paru, si j'ai bonne mémoire, voilà, aux éditions Grasset et Fasquel en 2014. En quoi cet ouvrage, qui a tout de même 4-5 ans d'existence, a tout de même encore quelque chose à nous dire, et notamment sur la philosophie. Alors, ce qui est mon angle d'attaque de cet ouvrage, qui encore une fois a été une rencontre littéraire, mon angle d'attaque, ce sera un peu l'idée que mourir de pensée peut frapper, en tout cas interroge la manière dont l'écriture se fait, l'écriture qu'on pourrait dire littéraire, comment elle se met en place, et notamment chez Quignard, à travers la question de l'étymologie ou des définitions. Parce que ce qui est absolument marquant dans cet ouvrage, c'est que Quignard imprime son écriture littéraire d'une logique, une forme de rationalité, qui pourtant fait dévier le langage usuel admis des mots en produisant une histoire, un cheminement de leurs origines, je dis bien leurs origines, et détourner ainsi tout l'institué de leur production-réception. Alors, il y a bien une logique à l'œuvre, mais chez Quignard, et pourquoi une logique ? Parce que, justement, dans cet ouvrage, si les auditeurs ont eu l'occasion de le lire ou peut-être vont le lire après cette émission, ce que l'on souhaite, ils vont peut-être être frappés, comme moi, de cette importance de la définition, des étymologies, qui est quelque chose, finalement, qui, on pourrait dire, presque propre au domaine de la philosophie. Bon. Et donc, cette logique qui est mise à l'œuvre dans l'écriture de Pascal Quignard interroge le langage. C'est un peu ma position, et transforme l'écriture littéraire attendue et la linéarité de son récit. Donc l'écriture de ici pratiquée dans cet ouvrage, Mourir de pensée, produit finalement un contre-ordre, une logique de l'ouverture du réel et au réel. Alors l'étymologie, c'est-à-dire ici au sens de la place de la définition, non séparée de l'insertion historique, en somme tout ce travail philologique n'est pas l'origine de ce travail philologique n'est pas seulement issue de notre culture. Hein. Évidemment, c'est un travail qui va chercher à dire l'essence de ce que penser veut dire. Hein. Je crois que tout ce qui est produit à travers ces définitions et ces étymologies, c'est vraiment le travail de que veut dire penser. Et la nature de ce penser, c'est ce qui fait le cœur même de cette écriture, hein, au sens de l'écriture qui traverse les ouvrages de Quignard, et qui fait aussi, je crois, dans cet ouvrage Mourir de pensée, l'expression d'un style. Bon. Alors, quel est un petit peu mon... comme je vous le disais à l'instant, cette rencontre avec Pascal Quignard est issue d'un colloque qui avait été organisé par le Collège international de philosophie et le HESS. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Pascal Quignard autour du déjeuner final. Et on avait parlé de François Châtelet, qu'il connaissait, hein, puisqu'il faut savoir... Bon, j'ai passé la biographie de Quignard, mais les auditeurs pourront regarder un petit peu tout ce qu'on trouve sur sa vie. Mais Quignard a enseigné à l'université Paris 8 Vincennes. Pendant quelques années, hein. Il n'a pas fait sa thèse parce que l'écriture est devenue tout de suite très très importante. On sait qu'il a travaillé dans l'édition, mais il a fait partie de ce qu'on a appelé le centre expérimental de Vincennes, devenu aujourd'hui Paris 8, qui a été délocalisé en 1979 et qui est maintenant situé à Saint-Denis. Alors qu'il est né, il a été mis en place par Edgar Faure du côté de Vincennes. Bon, alors j'avais eu l'occasion de discuter avec Pascal Quignard sur François Châtelet, qu'il a très bien connu. Et puis il connaît très bien la femme de François Châtelet, Noël Châtelet, écrivain. Hein. Et voilà, à partir de cette discussion avec Quignard, j'ai vu qu'il y avait probablement des manières de faire se croiser ces penseurs. Alors à propos de quoi ? Précisément à partir de cette question de la définition et de ce que veut dire produire des essences, ou à partir de la définition, ce que... produire une essence veut dire. Parce qu'en effet, pour le philosophe François Châtelet, définir, c'est bien dire l'essence de quelque chose. Hein. Ce qu'il précise dans beaucoup de ses ouvrages, dire l'essence, c'est le but, c'est de produire la différence d'avec le langage de l'opinion, hein, ce qu'on appelle en philosophie la doxa, d'avec les mots de l'idéologie. Évidemment, la question, alors ça c'est très classique, hein, on pourrait dire que depuis Platon, définir, c'est effectivement produire de la différence d'avec l'opinion. Bon, mais on verra que chez François Châtelet, et pas seulement chez François Châtelet, mais peut-être aussi du côté de chez Nietzsche, toute la question est de savoir ce qu'on peut entendre par cette idée d'essence, d'essentialiser. Alors comme on le sait, ou peut-être je suis amené à le dire et le faire découvrir pour la première fois aux auditeurs, François Châtelet a une œuvre collective, hein, de dimension collective, qu'on pourrait appeler de caractère encyclopédique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pensée qui s'exprime à travers des ouvrages collectifs, donc à travers la transmission du savoir philosophique, de différents savoirs philosophiques, transmission qui n'est pas détachée de l'historico-politique, qui voit naître les idées, les concepts, cette dimension collective de l'œuvre, l'histoire de la philosophie, l'histoire des idéologies, prend appui sur le statut et la fonction de la définition. Donc c'est précisément ce qui m'a intéressé en faisant cette liaison Quignard-François Châtelet. Puisque François Châtelet a fait aussi partie de l'Université Paris 8 de Vincennes en étant un des fondateurs du département de philosophie. Ce que j'avais oublié de préciser. Alors quand on regarde par exemple un des ouvrages de collectif de François Châtelet qui s'appelle La petite encyclopédie politique, qui n'est pas republié, qui porte sur 100 mots-clés du vocabulaire politique et la littérature de journaux, dans ce texte de présentation de cet ouvrage, Châtelet rappelle la définition stricte du mot encyclopédique. Le savoir qui, je le cite, parce qu'il forme un cercle englobant un domaine entier de connaissances, délivre à celui qui s'y soumet un enseignement complet et définitif. Alors, François Châtelet, immédiatement, va pointer l'absurdité d'un tel projet encyclopédique. Et il nous dit qu'il s'agisse de politique ou de physique, l'idée qu'on puisse ramasser dans les limites d'un livre, d'une suite de livres marquée par l'oméga du terme ultime, la totalité d'un savoir, ne peut être tenue pour sérieuse. Autant que celle de beauté, poursuit-il, l'idée de savoir absolu, c'est racise. Les chemins de l'invention sont si divers, la marge des événements si surprenante, que tout texte se limiterait-il à un champ strictement délimité, prétendrait-il ne résoudre que les problèmes de son temps, est à l'avance dérisoire s'il se prévaut d'être exhaustif et englobant. Donc ce qui est intéressant avec François Châtelet, et on va voir qu'il y a des résonances avec Pascal Quignard. Bon, ils ne sont pas tout à fait de la même génération, mais en tout cas, ils sont d'une même époque, d'une époque qui met en question la notion de savoir tel qu'il a été pensé par, précisément, la philosophie, on pourrait dire, à dimension transcendante. Je serai amenée à en reparler. Ce qui est intéressant dans cette approche de François Châtelet, c'est que la dimension encyclopédique doit être défaite. Alors, il ne trouve grâce à ses yeux que les encyclopédies de Diderot ou de Hegel, par exemple, qui étaient effectivement porteuses d'un savoir parce qu'elles se voulaient des réponses et des réponses précises à un temps donné. Voilà, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'était une arme par laquelle il s'agissait de faire valoir la prodigieuse diversité des connaissances et des techniques, contre le privilège exorbitant de la religion, de la métaphysique. Et celle de Hegel, son encyclopédie des sciences philosophiques, elle était pensée également comme un instrument de lutte contre la monarchie absolue, contre le despotisme prétendument éclairé, contre la Sainte Alliance. Et évidemment, pour Hegel, nous dit François Châtelet, dans cette lutte, il s'agissait effectivement de produire un système définitif de tout savoir pour défendre le rationalisme libéral. Mais sauf que François Châtelet, pour son temps, dans ces années 1970, quand il commence à créer ses ouvrages collectifs, à les mettre en place, il faut s'opposer à cette idée qu'on puisse englober dans un même livre, dans une encyclopédie, la totalité du savoir. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a derrière ça une manière de concevoir la philosophie qui ne serait plus un discours englobant, unitaire, d'où la nécessité de travailler en collectif. Alors, je vais passer un petit peu tous les détails de ce travail dans les ouvrages collectifs de François Châtelet, de ce travail des mots, de ce travail des idées. On le sait que définir pour un philosophe digne de ce nom, c'est toujours essayer d'aller à l'encontre de ce qui trompe l'auditeur ou le lecteur dans la société. Autrement dit, définir, c'est toujours dénoncer la supercherie verbale qui se révèle toujours, là je cite François Châtelet, à plus ou moins longue échéance, pratiquement réactionnaire. Donc il s'agit, à partir de la définition, de l'étymologie, de mettre en place un travail philologique au sens de l'érudition critique, de chercher à éclairer des significations rendues obscures par l'idéologie. Alors, Quand on entend le terme idéologie, on peut aussi songer à Marx. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? C'est le voile intellectuel, hein. C'est la justification morale et c'est l'arôme spirituel qui sont diffusés dans ces années 70, pour parler de François Châtelet, par la classe dominante, hein, mais c'était aussi valable chez Marx en son temps, mais François Châtelet voit la puissance des médias qui, justement, cette puissance diffuse cet arôme spirituel. Hein, et c'est bien un arôme spirituel de la classe dominante, hein, quoi qu'on en veuille. Et pour masquer précisément cette domination en place, et pour la marquer en même temps. Donc définir, c'est interroger les mots, c'est dévoiler leur rôle de véhicule d'opinion déposé et inscrit par les pouvoirs médiatiques ou politiques, pour François Châtelet. Donc il faut remettre du sens dans les mots, leur redonner une histoire à travers leurs origines textuelles et contextuelles. Là, il y a quelque chose qui marche entre Châtelet et Quignard, notamment dans Questions-Objections, un petit ouvrage de François Châtelet non republié encore à ce jour, c'est le problème de l'œuvre de Châtelet. Châtelet précise pour lui que définir, c'est de ce point de vue-là un plaisir. Hein. C'est le plaisir du philosophe qui fait cet exercice de la définition. Alors, donc le plaisir, c'est la joie, hein, c'est la satisfaction, c'est l'amour, c'est le désir. Et c'est le désir vers quoi ? Enfin, pourquoi ? Pour les aspects logiques et polémiques de la définition, précisément. François Châtelet précise qu'effectivement, il y a tout un aspect formel ou apparent, ce qu'il appelle l'aspect logique de la définition, à laquelle il tient beaucoup. Hein, parce que définir, c'est le discours de l'essence. Hein, c'est-à-dire, d'après Aristote, le discours de ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, et non point une chose autre. Voilà. Cela dit, ce premier stade de la logique apparente doit se doubler, pour François Châtelet, de ce qu'on pourrait appeler le différentiel. Hein. Il faut tout simplement, pour que cette définition marche, et marche dans le présent, soit un vecteur de mise en question, il faut lui associer une plus grande richesse que cet aspect seulement formel de logique. Hein. Et c'est ce que dit François Châtelet, c'est à partir de ce moment-là que commence une quête passionnée à la recherche des différences. Donc c'est dire si définir relève d'une logique différentielle à laquelle François Châtelet tient tant. Alors ce qui est intéressant, et je serais amené peut-être à en parler un peu plus précisément, ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'étymologie, de la définition qu'on rencontre dans Mourir de penser, et que François Châtelet m'aide ici à penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a finalement, en soubassement, en tout cas concernant François Châtelet, et on verra que ça marche aussi pour Quignard, une manière de désinstituer le langage, bon, et effectivement de désinstituer la philosophie. Et c'est ça ce qui me semble très important, parce que chez Quignard aussi, il y a une manière de vouloir désinstituer le langage, et le langage y compris d'une certaine littérature. Bon. Tous deux, dans leur champ spécifique, Quignard de la littérature, entre guillemets, et François Châtelet de la philosophie, entre guillemets, essaient de travailler leur propre champ d'expression, hein, de leur pensée. Et pour François Châtelet, effectivement, à travers tous ces ouvrages encyclopédiques, de type encyclopédique, dont on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de s'appuyer sur l'idée d'un savoir absolu où la philosophie enfermerait la totalité du savoir, puisque ça, c'est devenu complètement obsolète, bon, pour François Châtelet. Donc à travers ce travail collectif de définition, d'extériorisation des connaissances philosophiques, de dévoilement des concepts des philosophes, etc., insérés dans une histoire et dans une origine, le but est de montrer qu'il y a un autre usage possible du langage philosophique en opposition à ce qui est fait de la philosophie dans le cadre, notamment pour le cas de la France en tout cas, dans le cadre de l'enseignement de la philosophie, que ce soit au lycée ou à l'université. Donc Voilà, et peut-être, alors, une deuxième chose, je pointe une deuxième chose, parce que là, on sera aussi amené à en parler, ce que font, ou ce que nous montre François Châtelet à travers ces définitions, ce travail étymologique du vocabulaire philosophique, des concepts philosophiques, c'est tout un rapport au passé de la philosophie. Et il y a, chez Pascal Quignard, un très grand rapport aussi, un très grand questionnement du passé. Alors, du passé, c'est de la culture, des idées, passé de l'histoire. Hein. Quand on lit Mourir de pensée, on est évidemment submergé par la culture de Pascal Quignard, mais là je n'apprends rien aux auditeurs, c'est une érudition, mais une érudition au sens du gai savoir nietzschéen, c'est-à-dire c'est une érudition qui fait plaisir, qui enchante, qui émerveille, qui étonne, qui est surprenante. Mais il y a ce rapport chez Quignard comme chez François Châtelet, dans leur domaine spécifique, un questionnement du passé. Qu'est-ce que l'on fait de ce passé? Qu'est-ce que c'est que de se pencher sur le passé? Et François Châtelet, ça a été éminemment le questionnement de l'histoire. Qu'est-ce que faire de l'histoire, hein? Qu'est-ce que c'est que faire une histoire de la philosophie? Qu'est-ce que c'est que faire une histoire des idéologies? Comment se servir du passé? Est-ce que, et là encore, c'est une manière de désinstituer une idée du passé, un usage du passé, voilà, qui place le passé du côté d'une obsolescence, d'un grand corps mort. Alors qu'il s'agit pour François Châtelet de montrer que le passé philosophique, pour en rester à la philosophie, est vivant, a à nous parler pour aujourd'hui. D'où que François Châtelet en vienne à la fin de sa réflexion sur qu'est-ce que c'est que de travailler en collectif, qu'est-ce que c'est que de faire une histoire de la philosophie en collectif, en vienne à cette idée de géographie de la philosophie, non plus d'histoire de la philosophie, ramenant les idées non seulement à une terre, donc à un géos, hein, une terre, à un ancrage, et cette terre est en même temps une histoire. Mais le paradoxe, c'est que tenant compte de cette origine, de cette histoire, de cet ancrage, il arrive à rendre présent ce passé que certains pourraient dire mort. Il y a là quelque chose, je crois, que Quignard partage avec Châtelet, en tout cas, que je vois ces idées en partage. Alors je voulais un petit peu partager avec les auditeurs aujourd'hui cette question de la définition, et j'en termine juste pour préciser cette alliance, cet alliage entre François Châtelet et Quignard sur la question de la définition. Il faudrait peut-être, pour pousser un petit peu cet usage de Quignard de l'étymologie, aller du côté de Deleuze et de Nietzsche. Deleuze a écrit un Nietzsche absolument magnifique en parlant à un moment donné de ce fameux philosophe philologue, hein, qui s'attache aux mots par un retour à leur origine textuelle. Voilà. Mais chez Nietzsche, c'est pas tant pour démonter l'usage d'opinion qui en est fait, mais plutôt pour essayer de produire une espèce de philologie active, hein. C'est-à-dire aller chercher derrière les mots celui qui prononce ces mots, hein. Celui qui dit ce mot veut dire quelque chose en le disant. Bon. Donc pour Nietzsche, il faut traiter la parole comme une activité réelle, se mettre au point de vue de celui qui parle. Bon. Il y a là, entre Nietzsche et Quignard, j'en avais parlé avec Pascal Quignard d'ailleurs, qui reconnaissait sa, entre guillemets, sa dette à Nietzsche, hein, puisque moi j'y voyais vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a là, voilà, entre Quignard et Nietzsche, un travail à faire sur cette idée que, effectivement, le langage est appréhendé comme expression de l'autorité. Hein. Le langage, dans nos sociétés, nous naissons dans un langage de l'identité identificatrice, hein, de la conscience, par exemple, du moi social. Bon. D'où, contre la philosophie même, l'affirmation révolutionnaire et artiste de Nietzsche d'un « ça pense en moi ». Bon. Donc voilà, il y a quelque chose à travailler du côté de Nietzsche, de Quignard et de cette étymologie, de ce travail et de cette conception de qu'est-ce qu'essentialiser veut dire, en sachant que Nietzsche est effectivement quelqu'un qui s'oppose à Platon et au travail des essences. Alors voilà, je parlais à l'instant de Platon, et avant de céder la parole à Isabelle, qui va peut-être rebondir sur d'autres aspects. Il y a dans Mourir de pensée un travail de l'essence, un travail de l'essence au sens de la mise en question de l'essence telle qu'elle a été pensée par la philosophie platonicienne. Alors il faut tout de suite préciser que Quignard fait une grande différence entre Socrate et Platon quand on lit Mourir de pensée, et pas seulement Mourir de pensée. Le personnage de Socrate revient énormément. Alors là, de ce point de vue-là, il n'est pas tout à fait nietzschéen. Il s'agit pas de... il n'attaque pas Socrate. Il fait bien une différence entre ce que Platon a écrit de Socrate et ce que l'on sait de Socrate. Et Quignard marque une grande attention à ce que Socrate a produit dans le monde de la pensée. Donc en tout cas, du côté de chez Platon, l'essence, c'est finalement un arrêt du sens. Et c'est par conséquent un arrêt du réel, qu'il s'agit donc de pénétrer. Or, cette essence... cette essentialisation qui ressurgit d'un travail étymologique chez Quignard, elle n'est précisément pas qualifiante de toute éternité. Mais elle est production de devenir, elle est production de virtualité. Elle n'est pas enfermante, elle n'est pas absolutiste, elle est ouverture. Bon. Alors, c'est toute la critique, là, que je crois qu'on peut voir contre Platon et son système des essences, le ciel des idées, alors qu'il se comprend, effectivement, parce qu'il s'agit toujours de sortir de ce monde de l'apparence, de ce monde de la guerre des mots, qui fait qu'il y a des guerres effectives. Bon. Alors, c'est parce que les hommes ne savent pas s'entendre. Bon. Donc, il s'agit, par le langage, d'essayer de cadrer cet incontrôlable en l'homme. Bon. Chez Quignard, c'est le langage et le travail du langage à travers l'étymologie, etc. Il ne s'agit pas de tuer le sauvage. Il ne s'agit pas de nier l'indicible. Il ne s'agit pas de nier le non qualifiable. Le langage a à faire apparaître ce sauvage, cet indicible, ce non qualifiable, et aussi le non langagier. Je cite une petite phrase de Quignard, parce que c'est toute la question de la contemplation. Contemplation en grec, ça se dit théoria. Bon. Alors que nous dit Quignard de la contemplation? Il nous dit « La contemplation en grec se disait théoria. La proie s'engloutissait dans le dévorateur. La proie n'était pas contemplable sans une agression presque immédiate, sans la destruction consécutive à la vision et sans sa dévoration exhaustive dans les restes de la charogne désarticulée par chaque prédateur rassasié. » Il y a donc, une mise en question de la philosophie à travers ce mourir de pensée, d'une philosophie qui dévore, d'une philosophie exhaustive, d'une philosophie qui veut arrêter, qui veut retrouver le squelette des choses, finalement une philosophie qui fait mourir et non pas une philosophie qui fait vivre. Bon. Mais j'en ai peut-être pour l'instant un petit peu trop dit. Isabelle, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent sur ce que je viens de dire, ou tu veux complètement partir sur autre chose?
Merci beaucoup, Nathalie. Puisque tu citais ce très beau livre de Pascal Quignard, Mourir de pensée, je commencerai par laisser la parole à Pascal Quignard. Dans Mourir de pensée, à la page 192, Pascal Quignard fait une référence à la métaphysique d'Aristote. Aristote, dit-il, parle de chercher dans l'aporie, et non pas de suspendre le jugement. Penser, au sens de méditer, c'est contempler la situation impossible à l'intérieur de l'aporie. Le penseur s'opiniâtre jusqu'à habiter le Tomatzein. Cet étonné qui réfère à l'orage céleste et la contemplation elle-même. Mouvement d'effarement pétrifié, sensation d'incompréhensibilité radicale, c'est plus qu'une sagesse, c'est une extase immobile. Alors, c'est vrai qu'en repensant avec Pascal Quignard, une recherche dans l'aporie, une contemplation, une extase immobile, et non plus une sagesse au sens traditionnel, on peut se dire, cher lecteur, que Pascal Quignard revient à une écriture fragmentaire. Une écriture fragmentaire qui s'entend comme, au fond, un espace fragmenté, un discours morcelé, qui matérialise sa conception de la langue en tant qu'un objet à métaphoriser. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, ce fragment, chez Pascal Quignard ? Ne rejoint-il pas la musique et le silence ? Cet anté-prédicatif qui fait de Pascal Quignard un écrivain à l'embrasure du noir, un écrivain qui se laisse aller au secret de l'obscur, tel un alchimiste qui a le secret de l'œuvre noire, qui éprouve la parole dans le silence, qui se risque, qui se confronte à la menace du gouffre. Au fond, c'est toujours une écriture en tension que nous propose Pascal Quignard, une écriture sur le qui-vive, parce qu'il se donne à la nuit où il consent à perdre pied. Il y consent, et il consent dans cette déprise, dans ce travail de l'écriture, au morcellement. Le fragment, donc, ne se réduit pas à une forme chez Pascal Quignard. Il est bien une attitude de l'écrivain lui-même face à la page blanche. Une posture qui va déterminer l'acte d'écrire lui-même. Alors, comment est-ce qu'il faut l'entendre ? Qu'est-ce que c'est que le fragment chez Pascal Quignard ? C'est moins une forme qu'une manière de mettre en mouvement des formes entre elles. Autrement dit, le fragment va s'inventer entre les fragments. Il va exister à la mesure de la discontinuité que produisent les relations dynamiques qu'il instaure entre les formes. Donc si pour Pascal Quignard, la pensée, c'est comme une fulguration, Nathalie vous l'a rappelé, c'est-à-dire aussi une discontinuité, une déviation brusque, un excès, Nathalie Perrin parlait du sauvage, hein. Écrire, c'est donc pour Pascal Quignard une réponse au défi d'exprimer cette discontinuité de l'opération de pensée. Donc, l'expression de cette discontinuité telle que l'auteur l'emploie, c'est d'abord une émotion. Elle désigne le début et la fin du fragment comme deux moments stratégiques de son œuvre. Un premier qui doit suspendre et un second qui doit bouleverser. Donc l'importance décisive accordée à l'émotion chez Pascal Quignard va vraiment redéfinir les termes du défi technique lié à l'écriture fragmentaire. Pascal Quignard va mettre au fondement de toute fragmentation un désir. Et c'est de ce désir dont il nous faut parler. Ce désir qui associe le lecteur à sa pensée, qui impulse un mouvement, qui partage un contenu. Et en cela, on peut dire que Pascal Quignard va s'opposer aux conceptions classiques et romantiques du fragment. Le fragment quignardien va porter les traces caractéristiques d'un tout originaire qui l'a affecté et l'attire irrésistiblement. Et cette conception va prendre acte des crises et des mutations modernes. Et ça qui va l'intégrer au fond, dans la contestation des notions d'œuvre, d'essentialisation, dont a parlé Nathalie, de totalité ou de genre, jusqu'à finalement ce que Pascal Quignard appelle, dans Mourir de pensée, une joie folle de la désintégration. Cette désintégration qui cherche à se réaliser parfois dans la forme d'une autodestruction, d'un mourir de pensée, programmé par la rhétorique. Donc pour cerner la complexité de cette écriture fragmentaire, il nous faudra penser, avec Pascal Quignard, une forme de destruction qui s'inscrit dans un mouvement plus vaste, pas du tout dialectique, hein. Et c'est en cela qu'il va aussi prendre le contre-pied de Platon. Au fond, dans les petits traités, qui offrent un exemple tout à fait étonnant de la fusion possible de la narration et de la réflexion, Pascal Quignard montre que l'on peut s'appuyer sur la prise de conscience désenchantée, que penser signifie aujourd'hui retrouver, repasser, c'est-à-dire Ce que Nathalie disait, relire le passé, relire les mythes, relire la pensée, c'est au fond, pour Pascal Quignard, dépasser la pensée d'une certaine manière, en se fixant dans l'affect, la pulsion. Donc Pascal Quignard ne ramène pas les phénomènes occasionnels à une totalité, il ne va pas les réduire à des concepts, mais il va déplier sa réflexion à partir de choses accidentelles. Et on comprend par là son refus du système en faveur d'une pensée beaucoup plus souple qui s'épanouit en partant du contingent sans se sentir obligé de déduire des principes. Eh bien, ces fragments des petits traités de Pascal Quignard vont traiter justement du langage et du silence, de la peinture, de la musique. Et c'est ce fragment qui découpe, qui articule ensemble la trace et l'absence d'une mémoire et qui va permettre ce retour à l'originel dans l'écriture de Pascal Quignard. Et c'est pourquoi on peut dire que l'écriture nous fait perdre au sens étymologique du mot « perdre ». Père d'arrêt, c'est-à-dire nous fait donner jusqu'au bout, nous fait aller jusqu'au tout. C'est une performance littéraire qui ouvre sur le vertige. Un ultime et minimal avatar de l'écriture littéraire chez Pascal Quignard, qui est bien alors une écriture nocturne, une écriture de l'imaginaire, une écriture d'un théâtre d'ombre où la scène est comme un œil immense qui fait face au théatron qui regarde. Et c'est là que Pascal Quignard parlera d'une peinture de Masaccio, qui est au Musée des Offices de Florence, son premier homme, son pied droit qui est resté pris dans l'origine, dit Pascal Quignard. Le talon du premier homme est pris dans les grandes lèvres maternelles qui s'ouvrent sur le monde, dit-il. Et finalement, cette performance origine, la scène de l'origine du monde, c'est une danse des naissants, une danse à la fois natale et une danse macabre. Mourir, oui, mais c'est pour renaître. Il y a toujours une résurrection dans le mourir, c'est-à-dire un instant sublime où les deux infinis se touchent. On n'est jamais au monde ou dans le monde. Pour Pascal Quignard, on est toujours en son bord, dans les marges. Et c'est bien ce que nous dit sa littérature fragmentaire. Sa littérature performance qui fait la nuit, qui se tient au bord du monde, où là, tout peut arriver et tout peut s'effacer. Donc elle n'est pas un lieu, elle n'a pas de lieu. Elle est une matrice des mystères, cette écriture. Des mystères de la création et de la décréation. Ainsi, cette littérature procède bien par désynchronisation, déchirure, et elle appelle une radicale déprogrammation de la littérature. Autrement dit, la visée même de son écriture, c'est toucher au plus profond, c'est se jouer sur une double tension, dans l'irréparable déchirure du récit qui maintient la blessure ouverte, l'obscurité et la mélancolie de la perte, mais aussi qui pérennise certains ressorts érotiques à travers des siècles et des langues, qui porte au jour le toujours renaissant besoin du désir. Une enfance qui se maintient dans l'imaginaire, dans l'art de conter, qui écrit intégralement se retranche, disait déjà Stéphane Mallarmé. Et finalement, se retrancher, comment le faire? Eh bien dans l'enfance, dans le silence, cette infance, celui qui ne parle pas ou celui qui ne parle pas le même en langage, qui entre dans la grande fondation silencieuse qui fonde et qui forme un îlot énigmatique au sein des significations. Au fond alors, Pascal Quignard évoque par là l'intervalle mort qu'est le silence paradoxal propre aux langues humaines, ce silence qui se situe du côté du corps, du somatique, par rapport au sémantique, comme Nathalie vous l'a rappelé, et avec lui le goût, le toucher, l'odorat. Donc ce silence, c'est pas le contraire du bruit, mais c'est bien ce qui échappe à la signification linguistique, comme nous le dit déjà la peinture de Georges de Latour, qui est comme le silence éloquent, la vie secrète qui rejoint la musique, qui se nourrit de silence, qui en est. Comme le dit Pascal Quignard dans Vie secrète, ce n'était pas la technique qui était examinée dans l'enseignement de Némi Saltar, cet enseignement qu'elle donnait, mais bien l'attention même, la possibilité de concentration et de jaillissement irrépressible au sein du silence.
Merci beaucoup Isabelle. Alors avant de revenir un petit peu autour de ce mourir de pensée qui moi me tenait à cœur, et comme vous l'entendez Isabelle est allée beaucoup plus dans l'œuvre au sens large de Quignard, je vous propose d'écouter un extrait de Pascal Quignard qui dure environ 3 minutes où il s'exprime sur mourir de pensée. Si je peux avoir 2 petites secondes, je précise aux auditeurs où a eu lieu cette émission. C'est la librairie Mola à Manosque, où Pascal Quignard s'exprime sur cet ouvrage.
Mourir de pensée, c'est un titre un peu étrange que j'ai puisé dans la première fois où un être, où le mot pensée est employé dans l'histoire de l'Occident. C'est dans un vers d'Homère, il y a donc 2800 ans, et c'est un chien qui pense à un homme. Le vers d'Homère dit le chien d'Ulysse, Ulysse revient bien sûr de son périple, il est maquillé, barbouillé de braise et de charbon pour ne pas être reconnu par personne, et puis soudain il y a sur un tas de fumier près de la porte du palais un vieux chien qui lève sa tête. Et le vers d'Homère, en grec c'est Énoessène, il pensa Odyssée, Ulysse, Engus et Onta dans l'homme qui venait. Alors le chien pense, Ulysse, il est très loin, et puis il baisse, ses oreilles tombent, il se repose sur le tas de fumier, et puis il meurt. Vous voyez, il y a un lien entre mourir et penser, et j'ai recueilli, parce que je ne pense pas par concept, moi je pense par mots ou par petites histoires, j'ai recueilli toutes les histoires où la pensée et la mort se conjoignaient, soit par excès de bonheur, soit par dépression, déflation soudaine dans la mort, comme s'il y avait une fonction dans la pensée, de même que on dit que le rêve, la rêvée protège le sommeil, il y avait une fonction dans la pensée qui aboutirait à une reconnaissance, une attente qui pourrait être comme celle de la mort, de même que les saumons flairant comme ça dans les océans et les sources reviennent à la fois pour jouir et pour mourir dans la source. Je viens très souvent aux correspondances de Manosque, tout simplement parce que c'est une histoire d'amitié absolue avec celle qui s'en occupe, Edine Pravidlo, qui se trouve en plus être quelqu'un qui adore les chats que j'ai et qui les garde très volontiers. Donc c'est une amie et je ne pourrai jamais manquer les correspondances de Manosque. La littérature, d'ailleurs le mot même de littérature, les lettres, sont en effet quelque chose qui a puisé dans la correspondance dans l'Antiquité. Mais la littérature commence quand la lettre devient totalement imaginaire, quand elle n'a plus, et même je pense que la littérature, c'est une lettre qui n'a plus de destinataire. Il y a une très belle page d'Émile Benveniste à la fin de sa vie, quand il est devenu muet, puisqu'il a été très gravement malade. Le dernier cours, je crois, qu'il a fait au Collège de France, c'était pour dire l'écriture est ce qui efface soudain le destinataire. Ce qui fait que le langage s'objective sous les yeux et c'est le texte lui-même qui devient le destinataire. Donc là, s'il y a une correspondance dans la littérature, c'est une correspondance perdue avec plus personne.
Voilà, pour une fois dans nos émissions, nous n'écouterons pas de musique, mais on a la chance d'avoir, allez, utilisons le terme, un génie encore vivant de la littérature, alors, et qui parle très très bien de son travail et qui donne envie de lire et voire même d'écrire. Voilà, bah alors autant l'écouter. Là, c'était Pascal Quignard. Nous continuons un petit peu notre série de cartes blanches autour de aujourd'hui cet auteur Pascal Quignard et moi particulièrement de Mourir de pensée, Isabelle Raviolo, ma collègue, plutôt sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, on était sur cette idée avec Isabelle. Bon, le travail des mots qui, moi, m'a semblé fondamental sur ce Mourir de pensée, sur leurs origines, leurs histoires au pluriel. On a bien compris que c'était une manière de destituer une forme de langage hein, et donc d'écriture qui renvoie aussi à la manière dont la philosophie a pensé le langage, hein, dire le réel, en rendre compte. Bon, pour moi, Mourir de pensée est un ouvrage éminemment critique contre une forme érective et élective du langage. Bon, il y a en tout cas à travers ce travail des mots un exemple particulièrement éclairant quant à la sensibilité, à la sensitivité du travail de la pensée. Hein. Et c'est tout le passage qui démarre à la page 167 de Mourir de pensée et qui relie intimement le conceptus romain au fœtus tel qu'il est entendu aujourd'hui comme l'embryon vivant de l'humain en devenir. Le conceptus, hein, cette petite outre, nous dit Pascal Quignard, qui contient la vie, l'enfant à venir, les conceptus ou fœtus repliés dans leur utérus imagent une pensée du rêve, un nécessaire repli pour imaginer le rêve possible, le créer. Donc le concept, et ça je trouve c'est un exemple magnifique, le concept est comparé, relève du corps, le concept, oui voilà, comparé au fœtus relève d'un corps embryonnaire et signifie donc que le concept, comme expression de la pensée, n'est pas le tout dire de l'enserrement du réel, qui suppose paradoxalement extériorisation de la pensée comme assomption du réel. Hein. Mais ce concept fœtus, c'est tout au contraire la protection, le lieu protecteur nécessaire à l'épanouissement de la pensée, une sorte de repliement sur soi nécessaire pour s'ouvrir. Bon, cette idée aussi, à travers ce conceptus fœtus, d'une enfance de la pensée, d'une pensée de l'enfance, hein, où rêve et émerveillement ne sont pas séparés. Bon. Dans cette, justement dans cette monstration, parce que je n'ose pas dire démonstration étymologique magnifique de Quignard, qui rapproche le concept du fœtus, autrement dit de l'enfance, il y a tout un travail sur cette idée que la pensée est devenir, hein, et que la pensée grandit, mais non pas qu'elle va s'arrêter quelque part, hein, il n'y a aucune finalité, aucun finalisme, aucune eschatologie, hein, dans la manière de concevoir la pensée, le travail de la pensée chez Quignard. Il y a là, je crois, un devenir enfant, hein, de la pensée, dont on sait que c'est le devenir ultime, électif, hein, pour Nietzsche, de l'humain, hein, qui sort de ses déterminations idéologiques, par exemple comme le moi ou la conscience, que Quignard met en question à un moment donné dans son ouvrage. Ces déterminations idéologiques, cette manière de concevoir l'homme, hein, avec un grand H, à travers le moi, la conscience, sont peu ou prou le pendant de l'assignation sociale. Hein. Et c'est la référence également à Freud, hein, tellement importante pour Quignard. Et ce que nous disait Isabelle à l'instant, c'est que vraiment éprouver, penser, c'est éprouver, c'est sentir. Hein. Vous avez entendu là ce que nous dit Pascal Quignard des premières pages, hein, de son Mourir de pensée, et que je veux vous relire ici avant de passer la parole à Isabelle. Je lis page 17, chapitre 3, qui s'appelle « On peut mourir de pensée ». Et voilà comment ça commence. Ulysse en haillons est reconnu par son vieux chien Argos. Homère a écrit il y a 2800 ans dans Odyssée 17301 « Énoézen, Odyssea Aegus et Onta, mot à mot, il pensa Ulysse dans celui qui s'avançait devant lui. » La scène est bouleversante parce qu'aucun homme et aucune femme sur l'île d'Ithaque n'a encore reconnu Ulysse déguisé en mendiant. C'est son vieux chien, Argos, qui reconnaît cet homme tout à coup. Le premier être surpris à penser dans l'histoire européenne est un chien. C'est un chien qui pense un homme. Je reprends la scène. Le chien est étendu sur le fumier. Au son d'une voix qui s'élève près de la porte, il lève la tête. Il voit un mendiant en train de parler avec le porcher. Mais le déguisement ne trompe pas longtemps le chien. Il pense Ulysse dans le mendiant. Or, au même instant, soudain, c'est Ulysse lui-même qui ressent qu'on le reconnaît dans l'espace, que quelqu'un pense à lui dans le milieu. Ulysse regarde autour de lui. Il aperçoit, enfin, pas très loin du portail, gisant sur le tas d'ordures et de paille souillée, son très vieux chien de chasse, Argos, avec qui il courait les sangliers, les cerfs, les lièvres, les bouquetins, 20 ans plus tôt, quand il était le roi de l'île. Ulysse ne veut surtout pas être reconnu. Il essuie en hâte une larme qui coule sur sa joue, qu'il a préalablement salie, avec un bout de bois charbonneux, en sorte de ne pas être identifiable. Argos, quant à lui, lève les yeux, tend son museau dans l'air. « Pense, Ulysse, dans le mendiant, remue la queue, couche ses deux oreilles, meurt. Il pense et il meurt. » Ainsi, le premier être qui pense dans Homère se trouve être un chien, parce que le verbe « noein », qui est le verbe grec qu'on traduit par « penser », voulait dire d'abord « flairer ». Penser, c'est renifler la chose neuve qui surgit dans l'air qui entoure. Alors ça, c'est... Le passage de Pascal Quignard dans cet ouvrage, qui vraiment est un travail de la pensée, ce que penser veut dire, je le disais tout à l'heure, qui est un passage qui revient régulièrement dans plusieurs ouvrages de Quignard. Il revient souvent sur cet exemple d'Argos et d'Ulysse, et qui montre, je crois, une destitution de la pensée du côté de l'humain, hein, parce que c'est l'homme finalement qui flaire et c'est l'animal qui pense. Bon. Il y a là une mise en question du penser et une mise en question de l'homme érigé comme porteur de pensée. Et puis c'est cette idée aussi qu'on n'a pas le temps de développer, mais le chien c'est l'animal, l'animal c'est le sauvage, hein, c'est ce qui n'obéit pas aux règles de la raison. Bon, et bien la pensée est sauvage et la pensée s'exprime par le sauvage. Alors on a en tête tous les spectacles que Pascal Quignard a pu faire sur scène avec des corbeaux, avec des chouettes, hein, c'est-à-dire avec de l'incontrôlé, de l'incontrôlable, du qui peut voler, qui peut parler entre guillemets ou émettre des sons et qui vient couper la parole de celui qui lit, hein, en l'occurrence Quignard. Donc il y a vraiment un travail là de mise en question de ce que penser veut dire et d'un penser c'est flairer et non pas d'un penser c'est rationaliser. Voilà, il y a comme ça chez Quignard cette idée, et j'en terminerai là-dessus, que la pensée n'est pas enfermante, je le disais, et que la pensée, elle ne dit pas le tout, mais qu'elle est davantage du côté d'habiter l'énigme, hein, ou d'habiter la difficulté. Et là, il retrouve quelque chose de très philosophique, et d'où l'importance de Socrate, et moins de Platon, mais de ce personnage de Socrate, qui précisément a pensé l'aporie, hein, c'est-à-dire le problème, mais non pas la solution. Bon. Y a un mystère de la pensée, et l'écriture de Pascal Quignard, éminemment précise, est éminemment aussi mystérieuse, hein, parce qu'il s'agit de rendre compte de l'inexprimé, de l'inexprimable, autrement dit, je le dirais de manière très simple, de toute la richesse du réel, hein, de cet imprévisible. Le mélange de réel et d'imprévisible, c'est le sauvage précisément, et nous disait Pascal Quignard lors de ce colloque organisé par le Collège international de philosophie et le HESS il y a un peu plus d'un an. Le sauvage manque, nous disait-il. Voilà, Isabelle, je te laisse la parole.
Merci, Nathalie. Conclure. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur Pascal Quignard, au sujet du sauvage, le sauvage manque, eh bien, c'est peut-être sur ce manque, ce désir que j'aimerais revenir. Et ce désir, chez Pascal Quignard, se fait silence, il se fait prière. La prière qui, comme Pascal Quignard, l'exprime dans son livre « Le lecteur » à la page 38 aux éditions Folio, c'est dans le langage une défection du monde comme les mains jointes l'endeuillé prie pour le corps et l'âme de la morte. Prier, dit Pascal Quignard, c'est juger le monde absent pour sa présence, dans l'engloutissement du monde, de soi et du langage. Prier joint les doigts sur ce néant soudain ouvert. Le livre voile pour toujours la face du lecteur. Lire prie pour ce dénuement, cet abîme d'indigence, ce seul en défaut de soi, cette terre dénuée du monde, ce langage qui est annulation. Alors, c'est vrai que c'est dans ce sens du langage précaire que l'écriture quignardienne installe l'écrivain tel un mystique sans religion, jeté dans l'incessante question de la stupéfaction de sa parole. Comme pour le mystique, finalement l'art va suspendre la parole. Et c'est pourquoi on peut dire que chez Pascal Quignard, il y a comme une recherche du silence, un au-delà de la lettre, pour aller dans l'esprit des mots, dans ce sens de l'origine qui serait celui du sauvage, de l'homme des forêts, de l'homme en quelque sorte revenu à sa part originelle, mais qui se déroberait aussi sans cesse à lui. Donc finalement, cette critique de la matérialité pesante du langage va conduire Pascal Quignard aux confins de la musique, cette musique dont il parle dans « Tous les matins du monde », où il s'agit bien d'écouter Monsieur de Sainte-Colombe. Et cette écoute, pour Pascal Quignard, est une attention qui se fait prière, une attention qui devient prière, car l'oreille est chez Pascal Quignard ce qui précède la voix. Et si elle précède la voix, elle est toujours aussi celle qui nous enjoint à avoir cet œil qui écoute. Et dans la vie secrète, Pascal Quignard fait bien entrevoir, au-delà de l'art, un monde aux accents de surnature, un univers qui s'accroît, une porte qui s'ouvre soudain, là où il n'y avait pas de porte, et le corps s'ouvre avec la porte elle-même. Comme Nathalie vous le disait, il y a chez Pascal Quignard un rapport avec Nietzsche, un rapport aussi avec cet exercice philologique nietzschéen, mais aussi ce travail sur le corps où il s'agit de retrouver le premier homme en nous, l'homme de la danse, ce danseur de cordes nietzschéen, qui est chez Pascal Quignard un danseur mystique, un danseur de la transe chamanique presque, celui qui finalement peut retrouver par la danse l'image sans langage, l'image désimaginée, cette image au-delà de l'image dont Maître Eckhart, penseur mystique du XIVe siècle, parlait déjà dans son Nüberbildung du sermon allemand 14. Alors il s'agit bien de rejoindre cette attention, cette parole précaire, ce sens de la contemplation dont Nathalie vous parlait, à travers une écriture fragmentaire, à travers une musique, un silence, où écrire, c'est être poète. Car la poésie, c'est bien ce mot retrouvé, comme Pascal Quignard l'affirme dans son livre « Le nom sur le bout de la langue » à la page 74. La poésie, le mot retrouvé, c'est le langage qui redonne à voir le monde, qui fait réapparaître l'image intransmissible qui se dissimule derrière n'importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le regret du foyer, toujours trop absent dans le langage qui l'aveugle, qui reproduit le court-circuit en acte au sein de la métaphore. En fait, nous dit Pascal Quignard, les images ont besoin de mots retrouvés comme les hommes, chez qui le langage est second, tombe perpétuellement sous la nécessité d'être réagencé par le langage, d'être de nouveau acquis à l'idée de langage, qui doivent ainsi, ces images qui doivent ainsi retrouver le langage, le vrai langage, c'est-à-dire nous dit Pascal Quignard, un langage où le réel est défaillant, où l'enfer remonte en même temps qu'Eurydice, où le sevrage les poursuit dans leur dos, où le désir de nouveau redresse le corps vers l'avant, érige, c'est-à-dire au fond, le langage où le mot manque.
Merci beaucoup Isabelle, et voilà, tu nous permets, je crois, de rebondir sur cette idée de la relation de l'écriture de Pascal Quignard à la musique, de Pascal Quignard à la musique même. Voilà, on n'a pas donné une grande place aujourd'hui à la musique, en tout cas moi-même, mais là tu combles un petit peu ce vide et ce manque aujourd'hui. Et je propose une chose, on va laisser nos auditeurs, parce qu'il est déjà 9h, en précisant bon, que Pascal Quignard vient de sortir un dernier ouvrage qui s'appelle L'Enfant d'Ingolstadt. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cet ouvrage extraordinaire que j'ai lu, mais voilà, il s'agissait aujourd'hui d'un petit peu de travailler toujours cette question du rapport à la philosophie. Mais là, on va peut-être dire au revoir à nos auditeurs en leur disant qu'ils vont écouter voilà, on va terminer sur la voix de Pascal Quignard et sur ce rapport précisément qu'Isabelle évoquait de la littérature et de la musique. Quignard a reçu donc dans cette émission qu'on vous fait écouter, il a reçu un prix Livre et Musique 2018, et dans cette voilà, dans cette émission hein, qui a été, enfin dans quand il reçoit ce prix, ça a été filmé, il parle de la musique. Donc ça nous permet de clore un petit peu cette émission et de déborder un petit peu sur Radio Aligre, 6 minutes de plus.
Voilà. Merci Nathalie, merci chers auditeurs. Nathalie, merci d'avoir parlé de ce très bel ouvrage, L'Enfant d'Ingolstadt, dont je citerai un passage de la page 67, où Pascal Quignard nous dit que dans les arts, les parcours sont conflictuels, jamais linéaires. Comme tous les systèmes de signes, eh bien les arts sont plus assujettis à l'opposition linguistique qu'à l'évolution biologique. Les formes artistiques n'évoluent pas, elles se transforment en se défiant.
Voilà, merci beaucoup. On vous laisse avec Pascal Quignard. À très bientôt. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis très heureux de ce prix parce qu'il ne dissocie pas musique et littérature. Ça me touche énormément puisque moi, je ne peux pas les dissocier non plus en moi-même. En plus, je suis un Normand, j'ai vécu au Havre et je suis né en Normandie, donc le fait que ça soit attribué dans ce climat-là me convient, me fait plaisir, me touche. J'avais déjà fait un livre vraiment qui me paraît bien comprendre le lien entre littérature et musique, qui était Tous les matins du monde. Mais là, dans ce livre, le fait de partir du côté de la nature, même de nos jours, et quelque chose, même politiquement de nos jours, c'est quelque chose que je trouve très important. Et le fait, dans ce cas-là, de se transporter d'une douleur, d'un deuil, pour aller jusqu'au jardin, jusqu'au oiseau, me paraît la troisième dimension que je cherchais, peut-être. J'ai besoin, si vous voulez, de faire renaître le monde, faire renaître les sens, faire renaître les fleurs, bien sûr, les arbres, mais aussi les oiseaux. Et c'est ça qui m'a, comment dire, le propre, si vous voulez, de mes sciences comme musicien, c'est d'avoir accepté l'idée qu'il y avait un maître de la musique qui était cette chose inouïe que le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux dans l'aube, là, on est au printemps, ça commence à revenir, c'est quelque chose à partir de 4h, de 5h du matin, et ça enfle, il y a une sorte d'appel à la vie, de petites séquences sonores, toutes très différentes les unes des autres, mais chaotiques et merveilleuses à la fois, imprévisibles, qui font la beauté du printemps, mais qui font aussi le fait que les oiseaux nous le révèlent à nous-mêmes. Je travaillais pour le théâtre, une pièce avec des rapaces, une chouette vivante et un corbeau, et je jouais du Messiaen, du Olivier Messiaen. Et en travaillant sur les partitions de Messiaen, j'ai découvert qu'il y avait eu, 100 ans plus tôt, un pasteur américain qui avait noté tous les chants de ces oiseaux dans son jardin, uniquement dans son jardin, après la mort, la disparition de sa femme. C'était une façon de rester auprès d'elle en notant tous les bruits de son jardin. Les chants notés par le Simon Pichenet, qui est une histoire réelle, sont très sommairement notés. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est le fait qu'il notait aussi le bruit du porte-manteau, le bruit du seau que sa femme, qui était morte, qu'elle utilisait. Et cet assemblage, comment dire, d'un jardin, d'un deuil et de la musique, m'a paru... C'est un hymne à la musique, en effet, dans ce sens-là. La musique comme regret des morts, la musique comme consolation aussi, et comme bruit naturel vivant quand même dans le chant des oiseaux. À l'origine, j'étais organiste. Je ne suis pas un écrivain à l'origine, et toujours maintenant, parce que ça me paraît un peu prétentieux de mettre écrivain quand je passe une frontière, je mets toujours musicien. Vous voyez, je suis resté, comment dire, avec cette... Je suis d'une famille de musiciens, avec cette... ce respect de ceux qui m'ont fait, de cette transmission de la musique en moi et dans ce que j'écris aussi. Et les livres que je compose, je les compose... Vous savez, il y a des écrivains qui écrivent avec... qui font des plans avec des crayons de couleur, d'autres avec des numérotations, avec... Et moi, je fais toujours mes plans sur une partition que je décompose et qui me permet de pouvoir panoramiquement, mélodiquement, savoir où j'en suis dans le livre que j'écris, chapitre après chapitre, séquence après séquence. Les gens un peu dépressifs, comme je suis, qui ont vécu des expériences avec beaucoup de pertes, de disparitions, ont besoin de héler le perdu. Et si vous voulez, la musique, plus qu'aucun autre art, est quelque chose qui fait revenir du perdu, qui fait revenir de l'émotion, sans être douloureuse, qui arrive à l'habiller, qui arrive à la rendre touchante, émouvante. Il est sûr que qu'est-ce qui a plus profondément médité le chagrin que Schubert ou que Chopin ou que des... Il y a là quelque chose qui est lié, l'évocation du perdu et la musique.